19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, Sportrama, ce sera avec Nicolas Pinault, mais tout d'abord un bulletin d'information. Le centre médical du Nebraska de la ville de Omaha aux États-Unis a annoncé la mort d'un médecin atteint du virus Ebola qui était revenu de Sierra Leone. L'hôpital a publié un communiqué disant que Martin Salia est décédé à la suite de symptômes avancés de la maladie. C'est le troisième patient d'Ebola à suivre un traitement au centre médical du Nebraska et la deuxième personne à mourir de la maladie aux États-Unis. Au Burkina Faso, Michel Kafando a été choisi ce lundi pour conduire la transition et préparer l'élection présidentielle. Dans un an, un portrait de l'homme avec Idriss Fall.
La charte de la transition a été paraphée hier soir et le collège de désignation du président de la transition a retenu Michel Kafando après une réunion qui s'est terminée à 4h du matin. Très peu connu du grand public, Michel Kafando est né le 18 août 1942 à Ouagadougou. Diplômé en droit public et en sciences politiques, il a été le diplomate de carrière qui a traversé tous les régimes de Sangoulé Lamizana à Blaise Compaoré. Plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, entre 1977 et 1980, il a été nommé une première fois ambassadeur auprès des Nations Unies en 1982, alors que le pays s'appelait encore la Haute-Volta. Il reviendra à New York entre 1998 et 2011 comme représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Ayant vécu près de 15 ans aux États-Unis, il est parfaitement bilingue. À 72 ans, il avait pris sa retraite et s'occupait d'activités avicoles à Saponé, à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Peu après sa nomination ce matin, il a reconnu l'immensité de la tâche qui l'attend. D'abord former un gouvernement de 25 membres et surtout organiser l'élection présidentielle de novembre 2015 qui marquera la fin de sa délicate mission.
Le gouvernement nigérien va demander au Parlement de prolonger de 6 mois l'état d'urgence dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a demandé le ministre de la Justice du pays. Le président Goodluck Jonathan avait décrété l'état d'urgence dans les états d'Adamawa, Borno et Yobe en mai 2013 pour donner des pouvoirs spéciaux à l'armée chargée de venir à bout de l'insurrection islamiste Boko Haram. Cette mesure initiale de 6 mois avait été renouvelée à 2 reprises par le Parlement malgré son apparente inefficacité. Des centaines de Kenyans ont manifesté aujourd'hui à Nairobi pour protester contre des récentes agressions contre des jeunes femmes accusées de porter des vêtements trop courts ou trop ajustés. Claire Morin-Gibou.
Ce sont près de 1000 personnes qui se sont rassemblées dans la capitale kényane contre la violence et pour défendre le droit des femmes à porter les vêtements qu'elles veulent. 2 vidéos circulent actuellement sur les réseaux sociaux montrant des groupes d'hommes arrachant les vêtements de jeunes femmes et les frappant à coups de pied dans leur partie génitale. Les organisateurs de la marche affirment que plus d'une dizaine d'attaques de ce genre ont eu lieu dans tout le pays. L'attaque d'une jeune femme à Nairobi la semaine dernière, dans une rue bondée et en plein jour, a déclenché un grand mouvement de protestation, obligeant le président William Ruto à condamner cette attaque et à promettre des poursuites. Selon les organisateurs de la marche, il faut mettre fin à l'impunité car les auteurs des crimes d'ordre sexuel ne sont que très rarement poursuivis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les diplomates européens réunis à Bruxelles ont demandé d'ajouter plus de rebelles séparatistes de l'Est de l'Ukraine sur la liste des sanctions de l'Union. Cependant, il n'y avait aucune indication que la Russie serait frappée de sanctions supplémentaires. Le combat sur le terrain à l'Est de l'Ukraine, des témoins ont rapporté des bombardements ce lundi dans le secteur de Donetsk, bastion des séparatistes pro-russes. Les autorités ukrainiennes ont rapporté que 7 soldats et 3 policiers ont été tués au cours des dernières 24 heures dans des attaques à divers endroits dans les régions de Donetsk et de Luhansk. Une femme qui élève de la volaille en Égypte est morte de la grippe aviaire. C'est le 2e décès dû au virus H5N1 dans le pays cette année. 2 élevages de volailles en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ont confirmé différentes souches du virus. L'Union européenne va mettre en place des mesures conservatoires urgentes pour contenir ce virus très contagieux. Les autorités néerlandaises ont détruit 150 000 poulets dans une ferme du centre du pays. Le gouvernement a déclaré la souche hautement pathogène chez les oiseaux. Et les autorités britanniques ont confirmé de leur côté un cas de grippe aviaire dans un élevage de canards du Yorkshire où les oiseaux oiseaux sont également tués pour empêcher la propagation de la maladie. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, VOA Afrique, le sport maintenant, Sportrama avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sporama. Comme tous les lundis soirs dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook VOA Afrique. Et nous attendons vos appels en direct. Vous composez le 001 202 619 3140, 001 202 619 3140. Je vais saluer ce soir notre consultant, le doyen Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va faire un grand coucou également à Roger Stéphane C qui se trouve à Abidjan. Bonsoir. On va saluer actuellement également Élisée Oumpatine qui est à Boïcon. Élisée, est-ce que vous nous entendez?
Bien sûr, Nicolas Pinault, bonsoir.
Voilà, on va essayer de revoir dans quelques instants Roger Stéphane C de Radio Jaune et Noir. C se trouve à Abidjan. Messieurs, la semaine passée a été très riche sur le continent africain. La CAN qui se jouera finalement en Guinée équatoriale, le Maroc disqualifié et la cinquième journée des éliminatoires avec les fortunes diverses pour les grands d'Afrique. Ce soir, nous allons essayer de faire le point sur tout ça, à commencer par cette cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2015 qui s'est jouée vendredi et samedi. De nombreux pays ont décroché leur billet pour Malabo dans le groupe A en battant le Soudan 2-1. Les Bafana Bafana sud-africains sont assurés de terminer premier du groupe. Qui les accompagnera en Guinée équatoriale? Bonne question. Le Nigeria est le mieux placé après sa victoire 2-0 au Congo. Les Diables Rouges et les Super Eagles se sont deuxième ex aequo avec 7 points. On va surveiller le prochain match et le dernier match du Nigeria, ce sera évidemment contre l'Afrique du Sud. Alors Jules Valentin-Goué, malheureusement, les Diables Rouges, hein, après un départ tonitruant, qui se sont compliqués la tâche. Hein. Jules Valentin, est-ce que vous nous entendez à Libreville?
Oui, il faut le dire, ils se sont compliqués la tâche parce que l'équipe avait un défi, jouer contre une équipe de même valeur, mais qui, à domicile, avait plus à perdre qu'à gagner. Donc finalement, le Congo a choisi de défendre à domicile, ce qui est particulièrement difficile. Il y a la pression du public et tout. Et surtout que le Nigeria venait avec des options offensives très marquées et des joueurs qui pouvaient effectivement faire basculer la rencontre. Finalement, donc, c'est le Nigeria qui, à ce jeu-là, tire sa carte du jeu.
Oui, Élisée Oumpatine, évidemment, les champions d'Afrique en titre 2013, les Super Eagles, qui commencent à relever la tête après le clash et le départ avec Stéphane Keshi, avaient évidemment un seul point lors des trois premières journées. Finalement, petit à petit, les Nigérians qui sont remontés. Élisée Oumpatine, est-ce que vous nous entendez?
Oui, vous l'avez notifié tout à l'heure, donc c'est-à-dire que c'est déjà un très bon résultat d'aller battre, surtout hein, par 2-0, parce qu'il fallait gagner par 2 buts d'écart pour chipper la deuxième place justement au Congolais. Ce qui a été fait, et là on tire un chapeau à Stéphane Keshi, qui doit maintenant nécessairement battre l'Afrique du Sud et maintenant se qualifier pour cette phase finale. Et déjà, ce serait un grand coup hein, réalisé justement par le sélectionneur nigérien.
Allez, on a le plaisir de retrouver Roger Stéphane C à Abidjan de Radio Jaune et Noir. Bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas, bienvenue à Abidjan.
Bienvenue à Abidjan. C'est comment à Abidjan ce soir?
Mais à Abidjan, il y a beaucoup plus de souris en raison donc du très bon résultat des éléphants réalisé le vendredi dernier dans cette éliminatoire de la CAN, le très bon 5-1.
Voilà, on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant, Roger Stéphane, on va en parler dans un instant de ce match. Mais avant cela, retour en arrière, le groupe B, les Aigles du Mali se compliquent la tâche. Après avoir perdu à domicile contre l'Éthiopie, les Maliens ont perdu à nouveau contre le Malawi 2-0. Une deuxième défaite d'affilée qui rend capitale la réception à Bamako. Mercredi de l'Algérie, déjà qualifié. Écoutons Sigamari Diarra, l'international malien que j'ai joint ce soir.
C'est un match capital, un match où on va dire on est dos au mur, mais on a encore le destin entre nos pieds. Donc c'est-à-dire on a à domicile, on a la chance de recevoir dans ce match capital. il y a une Coupe d'Afrique des Nations au bout du compte, donc voilà, une sorte de motivation. Pour eux, c'est peut-être un match de prestige, un match de gala, un match qui va les permettre de confirmer en tout cas leur jeu en place de numéro 1 en Afrique. Nous, c'est un match pour notre part qui est décisif. Donc dans les têtes, c'est sûr, c'est clair qu'on n'est pas pareil, mais en tout cas, je pense qu'on a autant envie de gagner ce match.
Voilà, c'était Sigamari Diarra, l'international malien qui était joint à Bamako. On va évidemment revenir sur ce groupe B, puisque on l'a dit, hein, le Mali finalement qui se complique la tâche. Alors évidemment, Élisée Oukpatine, hein, les aigles du Mali qui finalement ont chuté face au Walia d'Éthiopie et également face au Malawi. Qu'est-ce qui se passe chez les hommes entraînés par Henri Kasperzak?
Ouais, là, ça se complique, hein. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Surtout que cette phase retour se complique pour ces aigles après avoir bien négocié la phase aller et bien. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux joueurs qui ont intégré l'effectif? Et là maintenant, Henri Kasperzak doit revoir sa formule, sa manière de jouer, son schéma tactique. Mais le dernier match s'annonce très très difficile puisque là, il faudra battre les Algériens pour espérer se qualifier et aussi attendre un mauvais résultat des deux autres prétendants. Ça s'annonce très difficile. Les Maliens risquent de manquer cette phase finale qui aura lieu en Guinée équatoriale.
Oui, ce serait un gros coup dur. Alors évidemment, Jules Valentin Ngoué, les Algériens qui tiennent leur rang finalement. Hein, après le très très beau parcours, évidemment, c'était lors de la Coupe du Monde au Brésil. La première nation africaine de football qui s'est qualifiée sans tronc d'ombrage, hein, évidemment, après 4 victoires lors des 4 premiers matchs.
Si, bien sûr, l'Algérie qui prouve que c'est vraiment elle l'équipe de l'année, c'est incontestable et c'est assez rare en Afrique de voir une équipe qualifiée jouer encore le coup sportivement jusqu'au bout. Et c'est la deuxième raison de féliciter l'Algérie, une Algérie qui, ma foi, sera un adversaire de haut de gamme et à craindre à la prochaine confrontation finale.
Allez, dans le groupe C, les jeux sont faits. Le Burkina Faso a décroché sa qualification en battant le Lesotho à Maseru 1-0 grâce à un but de Pitroipa. Salif Kabore était sur place pour la Voix de l'Amérique.
C'est à la première minute de jeu que les étalons du Burkina Faso ont signé la victoire de la qualification par Jonathan Pitroipa. Les vice-champions d'Afrique ont cependant subi le match pour diverses raisons, d'après Aristide Bansé.
On pouvait marquer plus que ça, mais bon, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. C'est un terrain synthétique aussi, voilà, c'est un peu difficile. Voilà, mais pour nous, en tout cas, voilà, c'était les 3 points qui étaient les plus importants. Voilà, on pouvait marquer beaucoup.
L'entraîneur des étalons de Burkina Faso, Paul Put, lui salue la victoire de son équipe.
Les Lesotho, ils ne sont pas perdus. Les derniers 9 matchs à domicile sont aussi joués contre Angola et Gabon. Ça veut dire qu'ils ont une équipe qui sont forts à domicile.
Avec cette victoire, le Burkina Faso devient le seul pays du groupe C à battre le Lesotho à domicile. À Maseru, la capitale du Lesotho, Salif Kabore, la Voix de l'Amérique.
Ouais, merci Salif. Alors les Panthères gabonaises accompagneront les étalons après avoir résisté à Luanda. Match nul 0-0 contre l'Angola. Finalement, on s'attendait à ce dénouement dans ce groupe, Jules Valentin Ngoué. Hein.
On s'attendait depuis assez quelques rencontres à ce dénouement, mais il faut dire que ça a été difficile. Après une première mi-temps particulièrement équilibrée, le Gabon a plutôt été chanceux en deuxième mi-temps, mais l'essentiel était fait, l'équipe a plié mais n'a pas rompu. Donc finalement, la qualification, en fin de compte, est méritée.
Le roseau qui plie, mais qui ne rompt pas, évidemment, sur la voie de l'Amérique. Dans le groupe D, un groupe qui a beaucoup fait parler ce week-end sur le continent, les Ivoiriens se sont rassurés après un début de match poussif face à la Sierra Leone. Victoire 5-1, doublé de Salomon Kalou. Les éléphants sont deuxièmes du groupe et ont leur destin en main. Un point suffira aux Ivoiriens pour se qualifier lors du prochain match face au Cameroun. Choupo-Moting sera absent pour les Camerounais. On va d'abord écouter juste après le match Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
La première mi-temps a été de très très moyenne facture. Malgré quelques occasions pour faire la différence, on était beaucoup trop espacé entre nos lignes. Voilà, mais le plus important, c'est d'avoir réagi et surtout maintenant ne pas se laisser griser par le score parce que tout n'a pas été parfait. Donc Kalou a joué en pointe. Il a été à l'image de l'équipe en première mi-temps assez moyen et en deuxième mi-temps très bon parce qu'on y a mis plus de cœur, plus d'envie, plus de pressing collectif et on a rendu notre match beaucoup plus facile.
Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Alors évidemment, Roger Stéphane C à Abidjan, on l'a dit, une première mi-temps poussif, un partout seulement. Et puis peut-être, que s'est-il passé dans le vestiaire à la mi-temps? En tout cas, évidemment, les éléphants ont réagi 5-1. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est Didier Drogba, c'est Hervé Renard. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps pour avoir le sursaut d'orgueil des éléphants, Roger Stéphane?
Bien plus sur le discours d'Hervé Renard et l'entraîneur qui a réussi à secouer ses garçons après cette première mi-temps difficile. Hein. Hervé Renard a trouvé les mots, il a secoué ses garçons. On a eu dit également, c'est pas confirmé dans l'ensemble de la presse, mais on a eu dit que Didier Drogba est descendu également dans les vestiaires pour dire quelques mots à ses coéquipiers sur ce match extrêmement important face à cette équipe de la Sierra Leone. Dans tous les cas, le résultat, là, il y a eu quelques surprises déjà sur le classement de la formation ivoirienne. Bowo Sylvain, titularisé dans l'équipe, dans les pêches des éléphants à la place de Copa Bari, les retours de Colo et Serédio en défense au milieu de terrain, tout ça a permis donc aux éléphants de livrer un bon match. La première mi-temps a été difficile parce que cette équipe sera l'honneur à livrer un gros match. Le but égalisateur de Mustapha Bangoura sur une de superbes qui a montré encore les failles défensives ivoiriennes. Mais enfin bref, la seconde mi-temps, heureusement qu'un match de football, c'est deux fois 45 minutes. Les premières 45 minutes n'étaient pas bonnes, mais le deuxième acte du match a été très très bon. Et là, les Ivoiriens se sont bien réveillés avec les bons discours tenus dans les vestiaires par l'entraîneur Hervé Renard. Elle se relance totalement dans ce groupe D.
Ah oui, alors elle se relance, mais la question qu'on se pose, Élisée Oumpati, Nabo Iko Mbéna, finalement, depuis le début de ces éliminatoires, on a l'impression que la Côte d'Ivoire ne joue qu'une seule mi-temps sur deux. On se rappelle de cette mi-temps catastrophique, notamment face aux Camerounais. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant, même si les Ivoiriens risquent évidemment de se qualifier pour cette CAN? Est-ce que c'est pas inquiétant en vue du tournoi?
Bien évidemment, c'est inquiétant. Cela montre combien de fois il y a plusieurs de ces joueurs qui ne sont plus titulaires dans le club. On a parlé tantôt de Kolo Touré. Vous êtes d'accord avec moi que Kolo Touré ne joue pratiquement pas à Liverpool. Hein, et oui. À l'image encore des autres joueurs, quelques joueurs qui ne sont pas forcément titulaires dans leur club. Donc ça répercute sérieusement sur le rendement en équipe nationale. Donc c'est dire que ça inquiète. Hein, surtout que ce dernier match, c'est vrai que les Camerounais sont qualifiés, mais attention, parce que quand il s'agit du haut niveau, eh bien, Volker Fink va sûrement aller chercher une victoire, de quoi conforter encore sa place dans cette élection. Donc, c'est dire que les éléphants ne sont pas encore totalement à l'abri.
Merci beaucoup, Élisée. Alors, on va évidemment parler de ce prochain match très important, Jules Valentin. Les Congolais, eux, se souviendront longtemps de l'arbitre de la rencontre à Yaoundé face au Cameroun. Un seul but de Vincent Aboubakar, hors jeu pour les uns, à la limite pour les autres. En tout cas, ce but permet aux Lions indomptables de se qualifier pour la CAN et surtout à la RDC de voir ses chances s'éloigner. Ça va être difficile, évidemment. La RDC qui rencontre la Sierra Leone lors du prochain match, mais qui doit surtout espérer une victoire des Camerounais pour pouvoir justement essayer de passer devant la Côte d'Ivoire. Bien dommage pour les Léopards, ce scénario. Jules Valentin,
oui,
est-ce que vous voudrez?
Allez-y, bien Jules. Bien sûr, les Léopards qui ont fait un très bon match à Yaoundé, mais qui, en fin de compte, ont cédé face à une équipe qui est restée très prudente et surtout très patiente, attendant le moment pour placer son estocade. Et finalement, c'est, comme on le dit, un coup de dé qui a fait pencher la victoire au profit du Cameroun. Et le Cameroun qui aurait pu se contenter aussi d'un nul pour se qualifier.
Alors Jules Valentin, vous restez avec nous dans le groupe E. Scénario incroyable finalement, hein, puisque l'Ouganda a battu le Ghana 1-0 et garde toutes ses chances. Jules Valentin, qu'est-ce que vous pensez de cette belle équipe ougandaise?
Non, on la voyait venir, l'équipe ougandaise, on l'a vu depuis le champ, et c'est depuis quelques éliminatoires d'ailleurs, l'Ouganda est souvent, disons que, en position de se qualifier, est qualifiable jusqu'à la dernière journée, mais c'est surtout pendant le champ en Afrique australe où on a pu constater que c'est une équipe de qualité. Bon, donc vraiment, tout est relancé dans cette poule où toutes les équipes se tiennent à deux points de distance au maximum, et vraiment la dernière journée sera intéressante à suivre de part et d'autre.
Et oui, puisque le Togo, évidemment, a connu une lourde défaite, 4-1 face au Sili National de Guinée. C'était talonné. On va prendre un premier auditeur en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, évidemment, de ce très beau succès de la Guinée, votre équipe nationale?
Je commencerai tout d'abord par féliciter toute l'équipe, surtout monsieur l'entraîneur Michel Dussier, qui a très bien joué, qui a cherché des très bons joueurs, soit que ce soit au niveau de la Guinée ou bien que ce soit, soit peut-être, c'est pas un peu partout dans le monde, mais quand même, on a vu nos joueurs vraiment, ils ont joué pour la Guinée et ils ont gagné. Mais vraiment, ça fait, on a rêvé, ça fait combien de temps on rêve de voir cette équipe guinéenne s'imposer comme ça, surtout face à une équipe ouest-africaine, parce que toujours on a eu mal à s'en sortir avec les équipes ouest-africaines. Le plus souvent, quand je prends l'exemple en 2004, on a perdu contre, par exemple, contre le Mali,
oui.
C'est un pays voisin. En 2006, on a perdu contre un pays frère.
Alors Ali, vous restez avec nous. Ali, on va poser la question. Ali, on va poser la question à Roger Stéphane C. Finalement, dans ce groupe, évidemment, F, toutes les deux équipes se tiennent en deux points. Est-ce que vous pensez que la Guinée va pouvoir battre l'Ouganda et se qualifier pour cette CAN?
Ben on verra bien, ça va être assez difficile quand même, parce que les groupes se tiennent. Le match dans ce groupe-là, il y a quelques... je vois bien que toutes les équipes se tiennent. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux grands ont chuté lors de cette journée. Et les deux petits, qui étaient après la quatrième journée, qui avaient 4 points pour l'Ouganda, 4 points pour la Guinée, se sont totalement relancés pour reprendre donc 7 points. Donc ça veut dire que la suite de la compétition va être extrêmement serrée dans ce groupe. Eux, qui depuis le début de la compétition étaient considérés comme le groupe de la mort, eh bien, le suspense est maintenu jusqu'à la fin de ces éliminatoires. Eh bien, tout reste encore possible, tout est encore jouable, difficile. Qui dira bien, qui va se qualifier dans ce groupe? Eux, on va suivre le déplacement donc, du Togo qui va être reçu par le Ghana, obligation de résultat pour les Ghanéens, et puis l'Ouganda qui ira à Guinée, obligation de résultat pour les Guinéens. Tout va se jouer lors de la sixième journée de ces éliminatoires dans ce groupe. Eux qui, depuis le début de la compétition, reste le groupe de la mort.
Et ouais, et le retour tant attendu d'Emmanuel Adebayor en sélection pour le moment, qui n'a pas encore porté ses fruits. On va attendre la sixième journée. On va écouter la star togolaise.
On est tombé sur une équipe du Guinée qui était vraiment en place, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et voilà, puis les occasions, ils ont mis au fond. Ça a été un après-midi qui est très difficile pour moi et pour l'équipe et pour les Togolais. Donc voilà, maintenant on est dos au mur, on va aller au Ghana.
Voilà, dos au mur. Alors évidemment, dans les deux autres groupes restants, le Cap-Vert et la Zambie se sont qualifiés aux dépens respectivement du Niger et du Mozambique. Et surtout dans le groupe G, la Tunisie et le Sénégal se sont qualifiés. La belle victoire des Lions de la Teranga qui ont battu les Égyptiens 1-0. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama ce soir sur la voie de l'Amérique depuis Washington. Autre débat ce soir, messieurs, le Maroc n'organisera donc pas la CAN, on l'a appris cette semaine. La Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en Guinée équatoriale du 17 au 8 janvier. Et le grand débat, Jules Valentin Gouet, faut-il sanctionner le Maroc? Le Maroc qui a demandé un report à de multiples reprises en raison de l'épidémie d'Ebola qui est en cours, notamment dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, Jules Valentin, vous, votre avis, on parle peut-être de 4 ans de suspension, comme en 96 pour le Nigeria. Faut-il sanctionner les Lions de l'Atlas, selon vous?
Non, mais personnellement, je me dis qu'au contraire, le Maroc est aussi une victime de cette situation. Vous savez, le Maroc était tiraillé entre ses intérêts économiques, les pressions internationales, et à ce niveau-là, le tourisme marocain qui fait vivre une grande partie de la population, et de l'autre côté, les inquiétudes, disons, sanitaires, et qui sont réelles, même si la psychose a été très, disons, très développée. Mais il faut dire que le Maroc, ma foi, avait raison, avait des arguments pour demander qu'on repousse la compétition. Mais cependant, repousser la compétition aurait été une véritable gifle pour l'Afrique et aurait exposé l'Afrique à être, après ce précédent-là, être exposée à tous les traitements possibles. Donc, le fait que la CAF ait réussi à trouver un pays hôte a délivré tout le monde, mais je pense pas qu'il faille punir le Maroc à ce niveau.
Oui, le Qatar qui avait même offert ses services à un moment. Élisée Mpatina au Bénin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sanction ou pas sanction contre le Maroc?
Oh, Jules l'a déjà dit. Et, bon, pour moi, la Guinée est en train de négliger cette épidémie-là. Donc, moi, je vois qu'on aurait pu repousser cette compétition. Et ma foi, la CAF ou bien son président, par le biais de son président qui veut à tout prix sanctionner le Maroc, selon moi, je pense que c'est trop dit. Et là, la Guinée équatoriale qui est sanctionnée pour avoir lié un joueur qui n'était pas éligible par rapport au match contre la Mauritanie, eh bien, ce pays-là vient d'être rétabli pour pouvoir organiser une compétition africaine et que au même moment, on pense sanctionner le Maroc. Vous voyez, beaucoup de questions, mais une chose est sûre, croisons les droits pour voir après cette compétition, ce qui peut se passer, mais espérons que cette épidémie n'emballe pas ce grand pays qui est en voie de développement, qui est la Guinée équatoriale.
Et Roger Stéphane C, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Certains regrettent ce choix de la Guinée équatoriale, en raison évidemment du régime de Teodoro Biangema, l'homme fort évidemment à Malabo. Certains estiment que ce sera une vitrine. On a déjà entendu ce genre de critiques pour les Jeux Olympiques, à 2008 à Pékin, mais également lors des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le fait que
Je pense que je pense que la Guinée équatoriale a réussi un bon coup en récupérant cette Coupe d'Afrique donc délaissée par le Cameroun. D'abord, l'équipe se réhabilite, eu égard donc à la suspension qu'elle a eu l'année dernière avec l'utilisation de Thierry Fiedou, le joueur d'origine camerounaise qui a fait que l'équipe a été éliminée dans ces mêmes éliminatoires de la CAN 2015. Ensuite, il va y avoir une très très grosse médiatisation de cette compétition en raison de tout le feuilleton qu'il y a eu les mois passés entre le Maroc et la Confédération africaine de football. Oui, la Guinée équatoriale a réussi un bon coup en se repositionnant, en éliminant donc une sanction qui était contre elle. Et puis ensuite, elle sera sur le feu de la rampe tout au long de l'année 2015 par rapport à cette compétition. Mais bon, est-ce que la Guinée équatoriale en profite un peu pour redorer son image par rapport à l'actualité politique décliée sur cette partie de ce continent? Mais enfin, bref, reste pas avec le football. Sur le plan footballistique, la Guinée équatoriale a réussi un très bon coup en récupérant cette compétition.
Merci beaucoup. On va parler cyclisme, le Tour des 1000 collines, le Tour du Rwanda qui a lieu en ce moment. Et c'est l'Érythréen de l'équipe allemande Mekseb Debesay qui a une nouvelle fois remporté l'épreuve au sprint aujourd'hui. Le maillot jaune n'a pas changé d'épaule. Il est toujours porté par le jeune Rwandais Janvier Adi, vainqueur dimanche du prologue à Kigali. Retour sur ce Tour du Rwanda avec le président de la Fédération rwandaise de cyclisme, Aimable Bayingana.
Nous avons des partenaires d'abord gouvernementaux avec le ministère des Sports et de la Culture. Ensuite, nous avons les sociétés privées. En fait, le gouvernemental et le privé, ça se partage le budget du tour moitié-moitié.
Quelles sont les équipes qui sont là sur ce tour 2014?
Nous avons quand même les meilleures équipes africaines, à savoir les équipes érythréennes. Nous avons deux équipes érythréennes, une équipe, un club et l'équipe nationale. Ensuite, nous avons l'équipe nationale du Maroc et l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Ce sont, elles, parmi les meilleures équipes du continent. Alors, nous avons les équipes nationales d'Éthiopie aussi. L'Éthiopie, c'est un pays quand même qui émerge actuellement sur le plan du cyclisme en Afrique. Et en dehors de l'Afrique, nous avons une équipe Haute-Savoie de France. Nous avons une équipe suisse. Ensuite, une équipe allemande. Et l'équipe allemande, c'est dans laquelle joue l'Érythréen qui a gagné l'étape d'aujourd'hui et qui est également le mieux classé sur le calendrier continental.
Quelle est un peu la philosophie de cette compétition rwandaise?
Il s'agit en fait de développer ce sport qui est resté à la traîne par rapport aux autres continents, parce que l'Afrique est restée à la traîne dans le domaine du cyclisme. Et nous avons beaucoup de potentiel dans notre région, et étant donné que c'est une région de pays de haute montagne, les gens ils ont quand même une certaine résistance par rapport au reste. Donc nous voulons que les gens nous soutiennent dans ce domaine. Nous voulons quand même être l'un des meilleurs pays du cyclisme en Afrique.
Voilà le président de la Fédération de cyclisme rwandaise, Aimable Bayingana. Ainsi s'achève notre émission C'est Sporama. On va évidemment remercier à Libreville Jules Valentin de Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, et à très bientôt.
Un grand coucou à Abidjan. Roger Stéphane C était avec nous ce soir de la radio Jaune et Noir. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, et à bientôt.
Et on va saluer également le jeune papa Élisée Ungpatine qui est à Boïko, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas, et puis à bientôt.
Merci beaucoup. Georges Léonard Sagnon était à la mise en onde. Un grand merci de nous avoir suivis. On va évidemment vous donner rendez-vous sur la page Facebook VOA Afrique pour continuer à laisser vos commentaires. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur notre antenne. Nicolas Pineau était avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.